Donc on va passer à un modèle qui me semble peut-être plus pour les chercheurs, enfin on verra, qui s'appelle le Suro, qui va être présenté à deux voix, je crois. Hein. Non ? Finalement, c'est Julien Riffaut qui va le présenter. Donc c'est pour prédire un peu la consommation d'eau des différentes essences exposées aux sécheresses extrêmes et donc d'en mesurer ensuite la tolérance. Alors, je pense que ça va être moins fluide. C'est la Wi-Fi interne, hein, c'est ça qui est paresseuse. Alors pour meubler, à la suite du feu des Pyrénées-Orientales, Julien Riffaut a été interrogé pendant 30 minutes par Antenne 2, qui en a gardé 2 minutes, mais d'après Julien, ils ont gardé l'essentiel.
Merci pour la pub.
Alors, toujours pour meubler, l'association vous propose d'autres manifestations au cours de l'année 2003. Donc le 1er juin en 2023, il y aura une journée visite d'échange sur le thème du carbone. C'est un thème qu'on a traité antérieurement, mais il y a encore des demandes et on ira voir un projet pilote de boisement dans les Cévennes ardéchoises, le 1er juin. Le 20 juin... Ça marche ? Non ? C'est bon. Alors vous avez tout le programme dans le dossier et n'hésitez pas à participer à ces manifestations.
Je crois qu'on est bon, non ? Parfait, merci. Donc je suis Julien Riffaut, postdoctorant à INRAE, à l'unité de recherche forêt méditerranéenne à Avignon. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement, les applications de ce qu'on appelle les modèles d'hydraulique des plantes. Donc dans ce cas présent, je vais vous présenter le modèle sur eau. Et donc il va faire le lien un peu avec les questions qui précédaient sur l'impact des sécheresses sur la végétation. Donc c'est effectivement typiquement l'objectif de ce type de modèle, hein, qui est de comprendre, prévoir, prédire les flux d'eau entre le sol, la forêt et l'atmosphère, et également les flux d'eau, la circulation dans l'eau, dans les plantes, et le stress hydrique des plantes et ses conséquences en termes de risque de mortalité, par exemple, ou de contenu en eau pour le risque incendie, tout un tas d'applications qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Je crois qu'on est reparti dans une évolution un petit peu chaotique. Voilà. Alors, Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots hein, quand même pour rappeler un petit peu les motivations principales du développement de ce genre de modèle et de ses applications. Vous l'avez tous en tête, ce sont effectivement l'augmentation récente hein, des événements de dépérissement en France notamment, donc comme illustré ici avec les PCA dans l'Allier. Mais pas que, ce sont aussi l'augmentation des perturbations, notamment, effectivement, on pense tous aux perturbations incendies, notamment les incendies extrêmes, hein, comme observé par exemple l'été dernier dans les Landes. Alors je dirais que malheureusement, ces phénomènes hein, qu'on observe en France ne sont pas des phénomènes isolés, puisque c'est des observations qu'on observe un petit peu à l'échelle globale, avec quelques initiatives hein, qui sont en cours, qui se montent pour recenser de manière systématique ou quasi systématique à la fois ces événements de dépérissement ou ces incendies là ici, comme ces incendies extrêmes, afin de fournir des connaissances, des données pour travailler un petit peu sur ces sujets-là de manière coordonnée à l'échelle internationale. Alors je l'ai dit, ce sont ces observations, hein, ces événements qui ont motivé la recherche ces dernières années, ces dernières décennies, à développer des efforts sur la compréhension des mécanismes physiologiques de réponse des arbres aux sécheresses et aux canicules, avec vraiment une recherche pour comprendre ces mécanismes. Donc c'était un petit peu l'objet, il me semble, enfin, complètement l'objet de la présentation hier de Nicolas Martin, qui vous a présenté un petit peu les avancées et les perspectives de ce champ disciplinaire. Je voudrais me concentrer ici sur la partie vraiment modélisation qui émerge de ce champ, en se posant des questions de savoir comment est-ce que finalement la construction de ces modèles, basés sur l'acquisition de ces connaissances, hein, permet d'apporter des éléments de réponse à des questions importantes qui sont, par exemple, quelles sont les espèces et les régions les plus vulnérables, ou alors quel futur pour la gestion des forêts, par exemple face au changement climatique. Alors, juste avant de rentrer dans le fonctionnement de ce modèle, je voulais quand même faire un petit point de rappel sur les notions élémentaires d'hydraulique des plantes. Juste pour rappeler trois notions un petit peu principales. La première notion, c'est que la circulation de l'eau dans les plantes, donc des racines jusqu'aux feuilles, se fait dans des micro-vaisseaux, des micro-tuyaux de l'aubier, du xylème, par la transpiration. Autrement dit, c'est la transpiration qui est le moteur de la circulation dans l'eau dans l'arbre. Et lors de ce processus de transpiration, la sève est sous tension, c'est-à-dire que la pression est négative dans les cellules de l'arbre et la sève est donc sous tension. En période de sécheresse, pardon, lorsque la tension augmente de manière trop importante, on observe alors potentiellement une rupture de cette colonne d'eau et un processus d'embolie gazeuse qui va empêcher le fonctionnement normal de ces tuyaux, potentiellement empêcher l'ascension de l'eau dans l'arbre qui va pouvoir mourir de soif. Donc c'est exactement ce type de processus qui sont implémentés dans le modèle Sureau. Alors qu'est-ce que Sureau ? C'est, alors pour la description un petit peu technique, c'est un modèle mécanisme d'échelle sol-plante-atmosphère basé sur l'hydraulique des plantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? En premier lieu, ça veut dire que est implémenté dans Sureau tous les processus de bilan hydrique que vous avez pu voir dans les précédentes présentations. Pardon. Et notamment se présenter dans Biljou. Donc, c'est-à-dire que le modèle fait le bilan des flux d'eau entrant dans l'écosystème via les précipitations et des flux d'eau sortant liés à la transpiration, l'évaporation du sol ou le drainage. Sont implémentés en plus dans le modèle tous ces processus liés à l'hydraulique des plantes qui vont nous renseigner, donc cette fois-ci à l'échelle de la plante, sur la circulation de l'eau dans les arbres et les processus physiologiques de réponse des espèces à cette circulation. Et concrètement, le modèle, du coup, fait le lien entre la sécheresse du sol, donc la quantité d'eau dans le sol, la sécheresse de l'air, hein, qui est liée à la température, à l'atmosphère de l'air, et met en place les processus physiologiques de circulation de l'eau dans plantes via toute une série d'équations plus ou moins complexes. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails ici, mais... Je vous épargne ça, promis. Ce qui est important, c'est de voir un petit peu les types de sorties observées dans le modèle. Et donc, on peut prédire ce qu'on appelle vraiment les dynamiques du stress hydrique. Et donc là, qui est représentée une dynamique type de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la tension de l'eau dans l'arbre, donc des pressions négatives qui s'intensifient au cours là, de la période estivale. On voit que la pression descend au cours de la période estivale et puis remonte un petit peu après, lors des pluies automnales. Et donc cette pression négative, cette tension de l'eau dans l'arbre, va aussi pouvoir être reliée au phénomène d'embolie, que j'ai oublié de représenter ici, mais qui va pouvoir nous renseigner sur le risque mortalité du peuplement. Alors, comment est-ce que ça marche concrètement ? Donc, on l'a vu, comme pour les autres modèles. On va pouvoir faire fonctionner sur eau sur n'importe quel arbre, placette, peuplement, région, continent, planète, peu importe. À condition, évidemment, de lui donner les données d'entrée dont il a besoin. Ces données d'entrée, on peut les séparer en quatre grands compartiments. Hein. Le climat, journalier, précipitation, température, rayonnement, humidité. La surface foliaire, un paramètre important qui nous renseigne directement sur la surface transpirante. La réserve utile du sol que vous avez vu, donc la quantité maximale d'eau disponible pour la plante dans le sol. Et également plusieurs paramètres qui vont nous renseigner sur le fonctionnement hydraulique des arbres en question et les caractéristiques physiologiques des peuplements et des arbres. Et donc à partir de ce modèle, on va pouvoir dériver toute une série de sorties. Donc on l'a vu, le stress hydrique des arbres, la transpiration, le stock d'eau dans les plantes et évidemment le risque d'embolie aussi, dont je vous ai parlé juste avant. Alors, avant de voir quelques applications du modèle, juste quelques mots pour vous dire qu'en fait, on parle de modèle sur eau, mais on pourrait, si on était un petit peu plus rigoureux, parler plutôt d'environnement sur eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe à l'heure actuelle différentes versions codées dans différents langages informatiques. Tout ça dans la perspective de, à la fois, diversifier les applications de recherche ou de gestion et à la fois de diversifier les utilisateurs. Donc, on le voit, en fait, sur eau, c'est quelque chose d'assez récent, finalement, puisque le premier modèle date de 2021, codé en C, avec une architecture de la plante extrêmement détaillée. En 2022, on a fait une autre version avec une architecture un petit peu moins détaillée qui nous permet d'avoir des applications à des échelles plus grandes, typiquement de l'échelle du peuplement, de la région, voire du continent, on va le voir. Donc ici, codé en R aussi, c'est un langage un petit peu plus accessible. En 2023, le modèle a été implémenté dans une plateforme de modélisation qui s'appelle CAPSIS, qui nous permet encore de multiplier les potentiels d'application, notamment des choses très intéressantes en ce qui concerne l'impact des mélanges d'espèces ou de l'impact des effets microclimatiques. Et puis, évidemment, tout un tas de projets en développement, d'intégration et de couplage de modèles dans d'autres types de modèles de fonctionnement des écosystèmes. Le développement d'un package R et le développement du OM platform potentiellement, tout ça dans la perspective hein, toujours de multiplier à la fois les applications et de multiplier les utilisateurs. Alors, je vous propose maintenant de voir quelques exemples d'applications que l'on peut faire avec le modèle sur eau. Donc, ce sont vraiment, c'est absolument pas une liste exhaustive, hein, c'est vraiment quelques exemples bien choisis. Donc, un premier exemple sur la prédiction du risque de stress hydrique et du risque de mortalité à l'échelle d'une placette. Un deuxième exemple qui vise à généraliser un petit peu ces approches pour cette fois-ci voir ce qu'on peut faire en termes de prédiction de la distribution des espèces avec ce type de modèle. Un troisième exemple sur l'identification des écosystèmes ou des individus résistants à la sécheresse. Et un quatrième exemple sur son utilisation pour le risque incendie. Donc Donc, en premier exemple, donc voilà le type d'application qu'on peut faire au niveau de la placette, donc d'application de prédiction de du stress hydrique et du risque de mortalité. Donc là, avec une application sur du chêne sessile, sur un dispositif d'exclusion de pluie qui a été mené à l'INRAE de Nancy il y a quelque temps maintenant, puisque ça date des débuts des années 90, où un toit complet avait été mis sur les arbres pour stopper l'ensemble des précipitations et voir leurs effets sur le risque de mortalité. Donc on a utilisé ces données pour faire des prédictions avec le modèle sur eau. Donc les prédictions ici sont données, où on voit en fonction de jour de l'année le pourcentage d'embolie. Donc on a vu ce que c'était que le pourcentage d'embolie, hein, qu'il y a la tension de sève dans l'arbre, et qui est directement indicateur du risque de mortalité. Les prédictions du modèle sont représentées ici en trait plein pour les trois années, 90, 91 et 92, et comparées aux données mesurées sur le site d'étude, avec ici représentées par les points. Alors on voit immédiatement l'adéquation, je dirais, entre les prédictions issues du modèle et les données mesurées sur site, ce qui nous renseigne évidemment sur potentiellement la capacité de ce type de modèle à prédire le risque de mortalité, à condition évidemment d'avoir l'ensemble des données nécessaires pour paramétrer correctement ces modèles et faire en sorte qu'ils soient en adéquation avec les données. Et donc on peut généraliser un petit peu ce type d'approche de prédiction du risque de mortalité en cette fois-ci s'intéressant à l'échelle française et voir si on peut prédire un petit peu la distribution des espèces forestières avec ce type d'approche. Donc c'est exactement ce qui est représenté ici, hein, avec des prédictions qui sont faites pour deux espèces, le hêtre en haut et le chêne vert en bas. Donc à gauche sont représentés en vert, là, alors on ne voit pas très bien, mais en vert sur fond gris est représentée la distribution réelle des espèces réalisée à partir des inventaires forestiers. Et au milieu est représentée les prédictions du risque de mortalité dû à l'embolie prédit par le modèle. En gros, quand c'est gris, tout va bien, plus on tend vers le rouge, plus potentiellement un risque de mortalité important. On voit l'adéquation, notamment des prédictions de ce modèle, avec la présence des espèces, notamment sur les aires sud de répartition. Et puis on peut pousser un petit peu le bouchon en se demandant quel serait l'impact des projections climatiques et du climat futur sur cette distribution des espèces, telle que prédit par le modèle. Et donc c'est ce que représentait ici à droite, où sont mis donc les prévisions pour la fin du siècle, à partir du scénario RCP 8.5, hein, donc scénario business as usual. Et on voit effectivement une augmentation potentielle du risque de mortalité, avec potentiellement des difficultés pour les espèces dans les zones concernées ici. Là. Alors, toutefois, il y a quand même tout un tas de questions méthodologiques qui se posent autour de ces approches à grande échelle, notamment des questions de paramétrisation du modèle. Ça sera l'objet de la prochaine présentation qui vous parlera un peu de voir comment est-ce qu'on peut paramétrer ces modèles à ces échelles, et notamment des questions de comment est-ce qu'on peut paramétrer la réserve utile et la surface foliaire, qui sont deux paramètres importants. Alors, un troisième exemple sur l'identification des écosystèmes et des individus résistants. Donc, là, on utilise le modèle de manière un petit peu différente, où on va s'intéresser à voir quels sont les individus, les écosystèmes résistants, en s'intéressant à l'impact de ces différents paramètres d'entrée sur les paramètres de sortie. Donc c'est des visions un petit peu plus théoriques des travaux. Et pour ce faire, on va regarder quel est l'impact donc de la surface foliaire, de la réserve utile ou des caractéristiques physiologiques sur les variables de sortie. On va pouvoir réaliser des millions de simulations en échantillonnant de manière aléatoire ou pseudo-aléatoire dans ces paramètres d'entrée, et voir leurs effets sur les sorties. Alors, voici un exemple de ce qu'on peut obtenir en réalisant ce genre de méthodologie. Donc, ici est représentée l'influence relative des paramètres sélectionnés ici sur le risque de mortalité pour trois espèces différentes, le hêtre, le chêne vert et le chêne sessile. Donc ce qu'on peut voir, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est alors premièrement c'est qu'il n'y a pas énormément de différence ici entre les espèces qui ont été étudiées, et on voit qu'en fait une grande partie de la variabilité du risque de mortalité est expliquée, environ un 60% est expliquée par les caractéristiques stationnelles, surface foliaire et réserve utile, ce qui veut dire par conséquence que 40% en gros de la variabilité est expliquée par des variations des caractéristiques physiologiques des espèces. Et donc si on va un petit peu plus loin, on peut se demander maintenant dans quelle mesure finalement est-ce que ces caractéristiques physiologiques, la variabilité de ces caractéristiques physiologiques, qui pourraient être dues à la variabilité génétique par exemple, ou à de la plasticité phénotypique, hein, donc la capacité des individus à changer un petit peu leur comportement selon les conditions, dans quelle mesure est-ce que ces caractéristiques physiologiques peuvent en quelque sorte contrecarrer les effets des changements climatiques attendus sur la vulnérabilité des peuplements. Et donc c'est typiquement aussi le genre d'application qui peut être fait avec Sureau. Et donc ici est représentée la cavitation, donc la cavitation c'est l'embolie, hein, donc qui peut être directement liée au risque de mortalité. Sur des projections encore une fois faites à partir du scénario RCP 8.5, pour trois cas différents. Le cas référence, c'est le cas qu'on a vu en exemple 1, c'est l'exemple du chêne sessile, dans lequel on n'a pas modifié ses caractéristiques physiologiques, et on voit effectivement une vulnérabilité, notamment qui croît très fortement à la fin du siècle. Et puis on peut reproduire cette expérience, mais cette fois-ci en sélectionnant, je dirais un petit peu virtuellement, des combinaisons de caractéristiques physiologiques qui rendent les individus moins vulnérables au stress hydrique. Et donc ce sont typiquement les cas survivants, on a sélectionné ces individus, et les cas élites, où là on a gardé vraiment les meilleurs des meilleurs. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est effectivement des grandes différences en termes de risque de mortalité, une grande différence relative entre les individus sélectionnés pour leurs caractéristiques physiologiques de résistance et les individus références. Donc, évidemment, ça reste des simulations théoriques, mais en tout cas, ça nous renseigne sur un potentiel d'adaptation des individus au changement climatique. Et alors, quatrième et dernier exemple, l'utilisation de ce type de modèle, hein, de Sureau, pour la prédiction du risque incendie. Donc là, on va pouvoir utiliser Sureau pour prédire un paramètre clé dans le risque incendie, et ce paramètre clé, c'est la quantité d'eau dans le feuillage, ce qu'on appelle nous la teneur en eau du feuillage. Donc cette teneur en eau du feuillage, elle peut varier, je dirais, avec deux grands mécanismes. Le premier, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que lorsque la tension augmente pendant la période estivale, on a associé une baisse du contenu en eau des cellules. Deuxième mécanisme qui peut avoir lieu, c'est lorsque on a des événements de mortalité, où là effectivement on a du feuillage mort sur pied. Ce feuillage mort sur pied peut entraîner directement une perte très importante, en tout cas tant que le feuillage ne tombe pas, une perte très importante de la teneur en eau de la végétation et augmenter très fortement le risque incendie. On peut avec Sureau prédire l'impact de ces deux mécanismes sur la teneur en eau de la végétation. Et donc c'est ce qu'on a fait par exemple sur le site de Puchabon. Petite pause. C'est ce qu'on a fait, voilà, sans rentrer dans les détails, on a paramétré le modèle pour également prédire les variations de teneur en eau. Donc là, le modèle hein, toujours en courbe et les points. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'important, c'est de voir ici qu'on peut vraiment utiliser le modèle pour vraiment améliorer notre compréhension de ces dynamiques de dessèchement, voire faire des prédictions et des prévisions. Et on a plusieurs objectifs et projets en cours hein, pour utiliser les sorties du modèle Sureau pour améliorer les prédictions et la prévision du risque incendie. Et donc, voilà, en conclusion, donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé et convaincu sur l'intérêt de l'utilisation et du potentiel de l'utilisation de ces modèles d'hydraulique des plantes, avec donc Suro, qui est un outil en développement, récent, mais en développement, et déjà avec de nombreuses applications disponibles, et puis on espère enrichir encore le nombre d'applications possibles pour la gestion et pour la recherche. Voilà, merci.
Merci Julien. Donc tu as dans ton propos introduit le successeur, donc Arsène Druel, qui travaille donc dans le même service et qui va nous parler de télédétection, entre autres. Un peu. Merci.
Pendant que le prochain intervenant prend la parole, je précise une information parce que je trouve que le lien entre vulnérabilité et mortalité est un peu exagéré depuis deux jours, là. Dans le dispositif de chaîne Cécile qui vient de nous être présenté, il y a eu des mesures de taux d'embolie dans les pétioles et dans les rameaux de 1 an, mais il n'y a eu aucune mortalité après ces 3 années de sécheresse. Et je connais bien le dispositif, c'était mon sujet de thèse, mon dispositif de thèse, et je vous confirme que ces arbres sont encore vivants aujourd'hui, puisque je mesure leur croissance en 2023.
Merci pour ce baume. Okay.